La basse marche a plein d'histoires à raconter. Écoutez-les les samedis à 11h et dimanche à 13h avec Petites et Grandes Histoires de la basse marche.
Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle chronique des Petites et Grandes Histoires de la basse marche que je vais consacrer aujourd'hui au vanier et à la vannerie jadis en basse marche. Pour les textes, j'ai utilisé essentiellement les articles du bulletin Études Limousine. Maurice Robert, La vannerie à brin tissé, Les vanniers du Magotier, Vanniers et vannerie du Limousin et de la Marche, et Le palissou et la vannerie de paille et de ronce. Marc Prival, La vannerie de paille et de ronce et la fabrication des paniers de noisetier. André Louradour, La vannerie creusoise, et Michel Agnew, La vannerie populaire à Chamboulive.
La basse marche a plein d'histoires à raconter. Écoutez-les avec Petites et Grandes Histoires de la basse marche.
Nous allons emprunter notre introduction à l'ethnologue Maurice Robert, qui est sans aucun doute le meilleur connaisseur de la vannerie limousine, à qui il a consacré de nombreuses études et de nombreux ouvrages. La vannerie, écrit-il, est une des plus anciennes techniques, plus ancienne, croit-on, que la poterie. La première poterie n'aurait été que de l'argile appliquée sur un récipient en vannerie afin de le rendre étanche et résistant au feu. On a de nombreux exemples parmi les populations primitives de poterie modelée sur une forme en vannerie, laquelle disparaît à la cuisson. Et Maurice Robert de nous donner de nombreux exemples historiques de l'ancienneté de la vannerie. Moïse fut exposé sur le Nil dans un berceau fait de roseaux tressés. On trouve des objets en vannerie dans le tombeau d'un pharaon à côté d'objets précieux et de bijoux. Et c'est dans un vent qu'Isis aurait recueilli les morceaux du corps d'Osiris, etc., etc. Et Maurice Robert de citer la grande encyclopédie de Berthelot qui nous indique la vannerie, qui est au sens étroit du mot l'art de fabriquer les vents, embrasse dans le langage courant la confection des corbeilles, des paniers, des hottes et d'une façon générale de tous les ustensiles et objets divers qui se font avec des brins ou des tiges d'osier, de joncs, de rotins, de bambous, de roseaux, d'aloès, etc. entrelacés ou assemblés. N'employant que des matières premières fournies par la nature en abondance et à peu près toutes préparées, n'exigeant comme façonnage qu'une certaine habileté manuelle et peu ou point d'outils, elle est née vraisemblablement presque en même temps que l'humanité, et l'on a trouvé appliquée par la plupart des peuples sauvages non seulement à la construction de leur demeure, mais aussi à leur habillement et à leur armement. Ajoutons que, dans le passé, en basse marche comme ailleurs, dans toutes les campagnes, on ne laissait rien perdre. On utilisait toutes les ressources de la nature pour fabriquer des objets, des outils, des ustensiles. Et pour ce qui concerne notre thème d'aujourd'hui, on ne manquait pas d'utiliser la paille, en particulier la paille de seigle, l'osier, le saule, le noisetier, le châtaignier, le roseau. Et comme nous l'avons déjà expliqué dans une précédente émission, la ronce, etc. Précisons enfin que nous nous intéresserons dans l'émission d'aujourd'hui à la vannerie familiale, voire à la vannerie d'appoint. La vannerie se pratiquait essentiellement au cours des veillées d'hiver. C'est pourquoi nous allons écouter cette chanson. On va faire une belle veillée.
On est parti une gang, c'est pour aller veiller, c'est pour aller veiller.
On est parti une gang, c'est pour aller veiller, c'est pour aller veiller.
C'est à Fleurimont qu'on s'est tout ramassé. On va faire une belle veillée, on va faire une belle veillée.
On va faire une belle veillée, on va faire une belle veillée.
Tous les week-ends, Claude Perronnet nous raconte nos histoires de vie, les racines de la région.
Parmi les vanneries les plus originales de notre région, on trouve les objets en paille, et particulièrement en paille de seigle, avec des liens de ronce. Grâce aux informations de Maurice Robert et de Michel Agnew, nous allons nous intéresser aux matières premières. La ronce, d'abord. Les tiges proviennent de ronces noires ou de ronces des haies qui s'élèvent dans les fourrés à plus de 4 mètres de haut. Elle doit être cueillie le plus au centre possible du fourré, de préférence à l'ombre d'un arbre, car elle s'étire en hauteur et donc est plus souple et ne présente pas de ramifications de branches qui provoquent des cassures lors de la préparation de la tige. C'est au cours de l'hiver, après les gelées, que la ronce est coupée et préparée, car elle est plus souple, moins cassante. Cette même qualité fait rechercher des ronces suffisamment fortes, mais pas trop vieilles, à peau lisse, sans nœud et longue de 2,50 m à 3,50 m. Dès qu'elle est coupée, la ronce est débarrassée de ses épines à l'aide du couteau, dont le dos ne blesse pas l'écorce. Elle est fendue à froid en 4 parties. Les lamelles obtenues ont de 8 à 10 mm de largeur. Elles sont moins épaisses que les clisses de châtaignier, mais beaucoup plus souples. La paille, maintenant. Il s'agit donc essentiellement de paille de seigle. Celle-ci doit, dans le meilleur des cas, être cueillie à l'ombre avant maturité. Elle est longue et peu cassante. Elle conserve toute sa souplesse et elle n'est pas brimée. C'est donc près des haies qui entourent chaque champ qu'on cueillait cette paille. Et tout particulièrement dans la tovère, la tournière, bande de terre labourée, perpendiculairement au sillon du champ, à chaque extrémité de celui-ci. Cette récolte était battue à la main, l'épi projeté violemment sur un tronc, une échelle ou, quelquefois, au fléau.
Petites et grandes histoires de la basse marche.
Que fabrique-t-on en brins de paille de seigle ligaturés par des éclisses de ronces? L'exemple le plus caractéristique est celui de la fabrication des palissous. Les palissous étaient utilisés dans le passé pour faire lever la pâte du pain. Et chaque ferme possédait au moins 12 palissous. C'est dans ces palissous, préalablement munis d'un linge de toile propre, que l'on plaçait la pâte qui avait été pétrie dans la mets. Parfois, on recouvrait ce palissou d'un linge et on le plaçait dans une pièce tiède ou sous un édredon pendant une heure ou deux avant de le transporter jusqu'au fournil. Lorsqu'on a cessé de faire le pain à la maison, on a utilisé les palissous à d'autres usages. Ils servent de pondoir ou mieux de corbeille à faire couver les poules. Plus simplement, on les utilise comme corbeille à œufs, à fruits, à grains, comme vide-poche ou vide-tout. Notons que l'on s'en servait aussi pour placer les morceaux de viande découpés lors de la fête du cochon. Notons encore que l'on dansait dans le palissou lors de la naissance d'un nouveau-né. Parfois, on se contentait de placer le nouveau-né dans le palissou et de le faire tourner sur lui-même. Avant d'en arriver à la fabrication du palissou, voici quelques expressions de notre région qui utilisent ce mot. Si tu avais passé 8 jours sous un palissou, tu ferais moins le difficile pour manger. Ou pour parler d'un riche, on disait « il a des pleins palissous de louis d'or ». Ou encore « il est bête, il est fou comme un palissou ». Et pour menacer un enfant turbulent, « je vais te mettre en prison sous le palissou ».
Petites et grandes histoires de la basse marche.
Alors, quelles sont les différentes étapes de la fabrication de ce palissou? D'abord, on réunit des brins de paille, en nombre variable, selon la grosseur du boudin qu'on veut obtenir, mais généralement de 25 ou 30 brins, qui donnent un boudin de 2,5 cm de diamètre, réduit à 2 cm après emploi. Ensuite, on ligature l'extrémité à l'aide de la lanière de l'éclisse de ronce. Il s'agit ensuite d'amorcer une spirale avec la lanière qui sera enroulée autour du boudin. Cette opération est très complexe car il faut savoir ligaturer. Chacune des mailles sont spiralées autour de la chaîne, constituées elles-mêmes par une spirale qui se déroule sur un plan horizontal. Ça, c'est pour réaliser le fond du palissou. Pour réaliser les côtés, on va passer du plan horizontal au plan vertical, ou plutôt au plan oblique. Progressivement, en mordant de plus en plus sur la spire précédente. Notons que la fabrication d'un palissou ordinaire va occuper au moins 3 veillées, c'est-à-dire entre 8 et 9 heures.
Petites et grandes histoires de la basse marche.
Voici d'autres objets fabriqués en vannerie de paille et de ronce. Des palisses, sortes de paniers à anses, ronds et profonds, faits de paille tortillée et cousue avec de l'écorce de ronce refendue. Ces palisses, explique Maurice Robert, servaient à ramener du moulin la mouture, le son et la farine mélangée qu'on passait ensuite au tamis. Elle servait aussi à stocker le blé dans les greniers. Beaucoup de palisses dans les greniers étaient un signe de richesse. Et pour marier les filles, on ne manquait pas d'en informer les prétendants. On trouve aussi des palisses qui servent pour vanner et cribler le blé, ou des palisses à porter sur la tête. Des palissous en forme ovale dont on se servait pour confectionner les pains longs et la bignot, qui est la corbeille à œufs. Toute une série de bousses qu'on appelle encore bourna ou bignasse. Ce sont de grands vaisseaux à couvercle, en forme de tonneau, faits en paille cordée et cousue avec de l'écorce de bagnaudier refendu. Le bagnaudier remplace ici la ronce, et qui sert à conserver les légumes secs, comme les pois ou les fèves, mais aussi des fruits secs ou du son. Précisons que pour confectionner les grandes bousses, il fallait deux hommes, un à l'intérieur, un à l'extérieur. Dans les petites bousses, qu'on appelle parfois borgnottes dans notre région, on conservait le chenevis ou les plumes séchées qui ensuite iront dans les édredons. Certaines de ces bousses servaient aussi de chauffe-linge. Les sous-vêtements étaient placés sur un croisillonnage au-dessus d'une chaufferette en terre ou en cuivre. Ils étaient chauds très vite et endossés après la toilette ou le lever par un malade, par exemple. D'autres de ces bousses étaient des paniers pour loger les mouches à miel, autrement dit des ruches, de type carré ou de type cylindrique avec un toit plat ou en pointe. Avec la paille et la ronce, on produit encore de grands paniers plats que les cultivateurs fixent au niveau de l'estomac à l'aide de cordes passant sur les épaules et derrière le cou. Ces paniers étaient utilisés pour les semailles. Ils permettaient de semer avec les deux mains. On les utilisait aussi pour épandre les engrais ou la chaux. Avec la paille et la ronce, on fabrique encore des plats circulaires pour déposer des galettes ou les crêpes de blé noir, des frontaux que l'on plaçait sur le front des animaux sous la lanière qui assujettissait le joug, des clayons plats sur lesquels on déposait la miche avant l'enfournement, des séchoirs à fromage, voire même des moules à fromage, des corbeilles à ouvrage ou des revêtements pour les bonbonnes d'eau de vie. César Franck a mis en musique ce poème d'André Theuriet dont je vous donne quelques strophes. Brin d'osier, courbez-vous assoupli sous les doigts du vanier. Brin d'osier, vous serez le lit frêle où la mère berce un petit enfant au son d'un vieux couplet. L'enfant, la lèvre encore toute blanche de lait, s'endort en souriant dans sa couche légère. Brin d'osier, courbez-vous assoupli sous les doigts du vanier. Vous serez le panier plein de fraises vermeilles que les filles s'en vont cueillir dans les taillis. Elles rentrent le soir, rieuses au logis, et l'odeur des fruits mûrs s'exhale des corbeilles. Brin d'osier, courbez-vous assoupli sous les doigts du vanier. Vous serez le grand vent où la fermière alerte fait bondir le froment combattu les fléaux, tandis qu'à ses côtés des bandes de moineaux se disputent les grains dont la terre est couverte. Brin d'osier, courbez-vous assoupli sous les doigts du vanier. Vous serez aussi, brin d'osier, l'humble clé où quand le vieux vanier tombe et meurt, on l'étend tout prêt pour le cercueil. Son convoi se répand le soir dans les sentiers où verdit l'oseraie. Brin d'osier, courbez-vous assoupli sous les doigts du vanier.
Petites et grandes histoires de la basse marche.
Nous allons nous intéresser maintenant aux paniers marchois et bas marchois, tressés la plupart du temps en noisetier ou en osier. Et à la hotte, qui fut très utilisée en basse marche et que l'on fabriquait essentiellement en osier avec un fond en peuplier. Nous empruntons toujours les informations à Maurice Robert. L'osier permet de fabriquer toutes sortes de paniers en forme de demi-lune, avec des couvercles pour transporter la volaille, des paniers à pêche, des paniers ronds et profonds pour stocker les œufs, des paniers plats et allongés pour le ramassage des pommes de terre. Les extrémités sont étroites pour faciliter le vidage dans les sacs. Les paniers à beurre avec couvercle et anse, les grandes corbeilles en osier ou en clisse de châtaignier que l'on posait dans les tombereaux pour transporter les légumes ou les pommes de terre. On l'appelle parfois la baste, la benisse ou la rinça à Saint-Bonnet-de-Bellac. Les corbeilles d'osier pour transporter le linge, elles sont parfois plissées en saule, jamais en châtaignier, car celui-ci tâche le linge.
Je suis marchande de panier, qui veut de mon panier d'osier? Regardez-moi ce panier-là, on n'en fait plus des comme ça. Donne-moi ta main, tu peux toucher, tu verras qu'il n'est pas percé. Un panier garanti 6 mois, et si tu n'en veux pas.
La hotte était portée jadis dans toute la basse marche. Elle est encore utilisée, écrit Maurice Robert, mais c'est en 1964, en basse marche, en particulier dans les communes de Rancon et de Château-Ponsac, mais aussi dans celles de Laurières et dans quelques communes de la Creuse. Selon les communes de notre basse marche, c'est la Benâtre, la Banâtre, la Bénisse, la Benisse, la Banâtre ou la Banâtreau, parfois encore la Beune, la Benne ou la Beuneau. C'était l'instrument de transport par excellence, confectionné en tenant compte de la force de la personne appelée à s'en servir et aussi du volume de son futur contenu. Elle affectait donc des tailles très variables. On se rappelle dans certains villages la hotte de certains hommes de force herculéenne, lesquels n'hésitaient pas à s'en servir pour le transport d'un mouton. Chaque enfant était fier d'avoir la sienne à sa taille. La hotte servait à tout transporter, le bois, l'herbe pour la nourriture des animaux, en particulier l'herbe aux lapins, les feuilles mortes pour leur litière, les légumes, les animaux de petite taille, le linge. Les femmes partaient avec ce linge dans la hotte, quand les abords de la rivière, trop vaseux ou trop abrupts, interdisaient pratiquement l'usage de la brouette. Comment fabriquait-on ces hottes? Les étapes ont été observées chez M. Marteloup, un fabricant de hottes de Bicheuil dans la commune de Rancon, qui les fabriquait pendant l'hiver. L'osier est coupé sur quelques souches en bordure des champs ou dans les jardins humides. Il est utilisé vert pour les hottes courantes et mis à bouillir dans une marmite pour les hottes fantaisie. Le fond est préparé dans une planche de peuplier, un bois blanc sans tanin. Les montants sont des bâtonnets de 50 à 60 cm découpés dans de jeunes tiges de noisetier. Ces bâtonnets sont appelés des rissottes. L'osier, surtout s'il est bouilli, est écorcé. Il est utilisé sans autre préparation et même sans séchage préalable après avoir été fendu en deux au couteau. L'étape suivante est celle du tissage des brins d'osier. On installe ensuite une tige de tension pour faire tendre l'osier et les arceaux de renfort. Il suffit alors de mettre en place des bretelles qui étaient dans le passé faites de brins d'osier cordés, puis, plus tard, de morceaux de pneus plus doux aux épaules, et on pouvait alors jouer au Père Noël. À propos de la hotte, de la bonatte, signalons cette curieuse coutume de l'ouest de la Creuse. Dans la région de Vareille, si la fille qu'on mariait était la dernière à marier de la maison, on était tenu de faire brûler la bonatte et de danser autour. Le feu était allumé par le parrain qui se coiffait du bonnet de coton donné par la mariée.
J'entends les vieux planchers qui craquent, j'entends du bruit dans la baraque, j'entends dans le grenier chanter mon châtaignier. Bien à l'abri dans ma soupente, moi j'entends chanter la charpente, ce n'est pas du bois vermoulu. J'entends les poutres qui se plaignent de ne plus donner de châtaigne en supportant mon toit pointu. J'entends les vieux planchers qui craquent, j'entends du bruit dans la baraque, j'entends dans le grenier chanter mon châtaignier.
Petites et grandes histoires de la basse marche.
De chansons consacrées au châtaignier pour introduire ce chapitre sur la vannerie en clisse de châtaignier qui était surtout pratiquée dans la zone des monts de Blon et de Nantia. La matière première, le bois utilisé, se présente sous la forme de longues perches de châtaignier de 4 à 6 mètres de haut et de 3 à 7 cm au maximum de diamètre. Ce sont en général des coupes de 5 6 à 10 ans. Dès l'abattage, chaque perche est débarrassée des branches et des brindilles à la serpe, mais en prenant soin de ne pas blesser l'écorce. Par la suite, ces perches sont mises à tremper du mois de mai au mois d'octobre. Ces perches sont ensuite mesurées et taillées. Vient ensuite l'étape essentielle et délicate de la fente. Elle s'effectue sur l'échelle à l'aide de la serpe à fendre. Une étape délicate, ai-je dit ? Écoutons à ce propos Maurice Robert. Il faut noter l'importance du tour de main qui ne peut s'acquérir que par un long contact avec la matière et qui traduit la parfaite connaissance tactile et sensitive du matériau. La tige du bois n'a pas été saisie au hasard, mais selon le pli du bois. En la laissant retomber légèrement, l'artisan a senti quelle était la position la plus favorable. C'est aussi la main gauche qui commande les mouvements de la droite et de la serpe parce que elle aussi sent si la fente vient bien. On fabrique ainsi des éclisses et des lamelles de clisse de 5 mm à 1,5 mm. Et en parallèle, on fabrique les éléments de la charpente, de la carcasse, qui seront amincis à l'endroit où ils seront coudés. Les clisses servent ensuite à réaliser le tressage sur cette carcasse. Que fabrique-t-on avec ces clisses de châtaignier ? Des panières à pommes de terre, des petits paniers fantaisie avec des anses, des longues panières pour les pépiniéristes, des panières pour les bouchers, les charcutiers, les chiffonniers, les rogratiers, les maraîchers, les marchands de volailles, des cuviers pour les tanneurs ou des paniers à fruits, mais encore des fauteuils, des chaises, des bancs, de petites tables.
Tous les week-ends, Claude Perronnet nous raconte nos histoires de vie, les racines de la région.
Ce thème de la vannerie de la basse marche est quasi sans fin. C'est ainsi par exemple que nous n'avons pas parlé de la fabrication des quiédoux, des petites barrières à claire-voie hautes de 1 mètre environ faites en demi-tiges de noisetier ou de châtaignier, du paillage ou du repaillage des chaises, de la fabrication des paillassons, sortes de petits tapis et des petits paillassons circulaires qu'on utilisait comme dessous de plat, de la fabrication des chapeaux de paille. La zone de Bonnat, dans le Palto, dans le Palestel aujourd'hui, la souterraine, s'était spécialisée dans la production d'élégants chapeaux à bord court, et aussi de la production des guêtres de paille qui permettaient de se protéger du froid pendant l'hiver. Disons encore deux mots sur la vannerie de noisetier qui était répandue en basse marche et dans l'ouest de la Creuse. Les baguettes de noisetier étaient cueillies vers fin novembre, en tous les cas avant les premières neiges et souvent en lune vieille pour éviter qu'elles ne soient piquées par les vers. l'écorce de la baguette est enlevée avec le dos de la lame du couteau, ce qui explique la belle couleur jaune clair des paniers en noisetier. La baguette peut être employée soit toute ronde pour le cadre, soit en clisse pour le tressage. Il fallait un peu plus de 10 heures pour fabriquer un panier en noisetier. Mais nos vanniers fabriquaient aussi des corbeilles à linge, des paniers à ouvrage, des paniers à pêche, des paniers à fruits. Nous allons terminer par la vannerie de Jonc, qui pour l'essentiel permettait de fabriquer des jouets pour les bébés et les enfants, des grelots, des petites bonnattes, des petites hottes, des chars à bœufs, des croix, des berceaux, des poupées, des bagues, des bracelets, des ceintures ou des couronnes tressées. Merci de nous avoir suivis pour cette nouvelle chronique des petites et grandes histoires de la Basse Marche que j'ai consacrée au vannier et à la vannerie jadis en Basse Marche. Pour les textes, nous l'avons fait en compagnie de Maurice Robert, de Marc Prival, d'André Louradour, de Michel Agnew et du poète André Theurier. Pour les accompagnements musicaux, nous avons fait appel au compositeur Michael Praetorius, César Franck, au chanteur Sonia Malkin, Sophie Darel, Jean Ferrat, au violoniste Gabriel Lenoir, au groupe Maluzerne, La Veillée est jeune, Médiéval Musique et les Éoles que nous écoutons en ce moment. Je vous donne rendez-vous le week-end prochain. À très bientôt donc et très bonne semaine à vous tous.
Tous les week-ends, Claude Perronnet nous raconte nos histoires de vie, les racines de la région.